L'autre exemple, il porte sur une patiente que je suivais donc il y a à peu près 2 ans, qui après il y a eu une interruption dans le suivi médical. Elle est venue un samedi matin, un samedi midi, en catastrophe au cabinet, parce qu'elle se sentait enceinte, elle désirait mettre en place une interruption de grossesse, mais il y avait discordance entre 2 tests sanguins de grossesse et l'échographie qui avait été effectuée n'avait pas retrouvé l'embryon. Et ce qu'elle voulait, c'était profiter de la pilule abortive. Donc on était sur des limites de date, toujours pareil, dans l'urgence, ce qui est assez fréquent. Compte tenu de son désarroi, des problèmes de date, je l'ai adressée un samedi après-midi sur un service d'urgence de gynécologie en expliquant dans une lettre le pourquoi de cette démarche, de façon à l'aider, je dirais, à faire le point et à se situer. Donc il y avait grossesse, il y a eu interruption de grossesse. Indépendamment, donc, il y a eu, donc, ça c'était la première interruption de grossesse, et je l'ai revue là, il y a très peu de temps avant la conférence, avec un nouveau partenaire. Donc, premier partenaire, un enfant, une interruption de grossesse. Deuxième partenaire, une enfant, une demande d'interruption de grossesse sur une nouvelle grossesse. Je ne sais pas leur décision, ce qu'on a discuté un petit peu au cabinet, je ne les ai pas revus. Mais indépendamment de la compulsion de répétition qu'il y a, là, ce qui est intéressant, c'est le problème qui a été rencontré avec l'échographie. Puisqu'en fait, il démontre que l'échographie n'est jamais qu'un écran avec ses limites, et que l'inconscient de cet enfant, donc sur la première interruption de grossesse, s'est débrouillé pour masquer ce début de grossesse. Donc il est vrai que l'échographie, c'est une technique performante, qui est d'un apport non négligeable dans le suivi d'une grossesse et dans le diagnostic prénatal. Mais ce sont d'ailleurs ces progrès en matière d'échographie qui ont donné lieu à de nombreux départs dans le cadre de l'extension de la loi Veil pour la période de 12 à 14 semaines d'aménorrhée. En effet, le professeur donc Israël Nizan, qui était chargé par la ministre Martine Aubry d'établir en 1999 le rapport sur le délai d'extension de l'IVG, qui était au départ favorable donc à cet allongement, a finalement changé d'opinion par crainte d'une dérive eugénique. Le problème, c'est que la première échographie de grossesse s'effectue en général vers la 12e semaine d'aménorrhée. Donc c'est vrai qu'elle permet la recherche de certains risques de malformations chromosomiques, notamment par la mesure de la clarté nucale, et elle permet aussi le dépistage de certaines malformations mineures des membres. Donc ça peut être des absences de doigts, ça peut être des problèmes concernant une main. Avant l'extension de la loi Veil, cette échographie donc avait lieu à 12 semaines d'aménorrhée et on se trouvait de toute façon sur la date butoir du délai légal d'IVG, donc il n'y avait pas possibilité d'avoir recours à une IVG. Donc il y avait mise en place d'un suivi d'une grossesse à risque avec l'intervention de morphogénéticiens pour voir ensuite préciser, je dirais, l'anomalie, voir si celle-ci était plus importante que prévu et mettre en place ou non un avortement thérapeutique. Actuellement, compte tenu qu'on va mettre en place cette échographie et qu'on a encore 15 jours derrière pour faire un avortement, c'est vrai qu'il peut y avoir tout à fait déclenchement d'un avortement, je dirais, à la hâte pour des malformations mineures, donc un risque de demande d'interruption de grossesse abusive, puisque la loi le permet. Et c'est toute la problématique de cette extension de 15 jours, qui peut sembler mineure, mais qui a une répercussion qui n'est pas du tout, je dirais, insignifiante. Dans le même temps, le professeur Friedman, chef de service de l'hôpital de gynécologie de l'hôpital Béclair, mettait en garde contre une recherche de l'enfant parfait grâce aux propriétés de l'échographie, donc une sélection, je dirais, d'un enfant sur des critères morphologiques acceptables, avec bien sûr tous les risques de dérive possibles sur les limites de ces critères acceptables. Mais pour un inconscient, un enfant parfait n'est jamais que l'enfant fantasmatique que les parents ont en eux, qui est le reflet des projections de leurs propres parents sur eux. Donc de toute façon, il s'agit d'un enfant fantasmatique qui ne s'inscrit pas dans le réel, qui n'est pas de l'ordre du réel. Donc on ne peut pas parler d'enfant parfait. Donc l'échographie, elle s'inscrit donc comme une technique de plus donc dans le suivi d'une grossesse. Et il serait illusoire de penser qu'une échographie normale puisse être le garant donc d'un enfant sans problème. Les images nous parviennent donc à travers le filtre d'un écran qui peut révéler ou masquer un symptôme. Donc c'est l'exemple du film de Julia que vous avez donc depuis le début de la journée qui est projeté sur une échographie qui manifestement aurait dû apparaître, a réussi à traverser 5 échographies. Alors une, on peut comprendre, 5, ça semble quand même spectaculaire. En fait, l'anomalie au niveau inconscient représente le symptôme transgénérationnel. Donc l'inconscient transgénérationnel, au travers de l'enfant, va se débrouiller pour ne pas être dépisté et pour laisser le symptôme naître. Cet écran donc, que va choisir l'inconscient peut prendre bien évidemment l'apparence de l'appareil échographique qui va laisser passer une malformation normalement dépistée, mais il peut aussi choisir de prendre l'apparence d'une malformation génétique qui apparaîtra après la naissance, avec donc tout ce qui est anomalie du génome. Ce sont aussi les maladies métaboliques, où l'on sait que le handicap psychomoteur de l'enfant va apparaître après sa naissance, et je dirais même souvent dans un sens régressif, au fur et à mesure de l'évolution de l'enfant.